Christ, voyez-vous, on va aller dans Apocalypse chapitre 8, les versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 8, versets 7 à 12. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alors, je voulais vous asseoir. On avait commencé la semaine dernière, on avait fait le premier point, on va le reviser très rapidement, et on devrait terminer cette leçon-là aujourd'hui, et après, on va tomber dans le chapitre 9. Alors, on avance, tranquillement, pas vite. Je pense qu'on est rendu à la 39e leçon déjà sur l'Apocalypse. Ça va vite, puis ça va pas vite en même temps. Ça va prendre au moins encore un an, puis sinon plus. Alors, on avait donné comme titre au sermon les quatre premières trompettes, exécution des jugements divins. Alors, on avait vu, si on se souvient, que Dieu le Père avait donné au Fils, il avait transmis un livre, c'était le livre des décrets. Les décrets, c'est tout simplement les décisions divines sur tout ce qui était pour se passer sur la terre à toutes les époques, aller jusqu'à la fin. C'est énorme. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point c'est énorme. C'est vraiment énorme. Pensez, pendant des milliers d'années, tout ce qui se passe dans tous les pays, sur tous les individus, sur toutes les nations, sur toutes les églises, tout ça avait été décidé d'avance. C'est ça qu'on appelle un décret. Dieu a décrété toute chose de toute éternité. Et il a donné le livre des décrets au Seigneur Jésus, parce qu'il est dans le ciel, vous vous souvenez de ce qui avait été dit, « Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux? » Il n'y a rien qu'un qui s'est avancé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il brise, ça veut dire briser un sceau, ça veut dire exécution des décisions divines, exécution une en arrière de l'autre, jusqu'à la septième. On ne reviendra pas sur chacune des affaires, mais la septième, elle avait quelque chose de spécial, le septième décret, c'est que ça ouvrait une autre affaire qui était celle des trompettes. Donc, tu as l'exécution des décrets, suivi des trompettes. Les trompettes, on a parlé que c'était surtout des avertissements. Quand le Seigneur envoie des choses sur la terre, là, comme ce qu'on vit présentement, là, ça n'est un avertissement. Alors, les avertissements, et après les avertissements, c'est quoi? Les coupes de colère. Donc, les décrets s'exécutent, et non seulement à notre siècle, à nous, au 21e, mais dans tous les siècles où il y a eu des chrétiens, il y a eu l'ouverture des décrets, qu'est-ce qui se passait de ce siècle-là, et à chaque siècle, il y a eu des trompettes. Parce qu'il ne faut pas voir ça là, comme c'est juste à la fin, là, puis c'est juste l'Église va avoir été enlevée. Moi, je ne crois pas que c'est la vérité. Alors, si à chaque siècle, Dieu a envoyé des trompettes pour avertir les hommes, et ensuite, ça a été suivi des coupes de la colère. Et là, on va arriver dans les coupes de la colère plus tard. On va voir que quand Dieu va se manifester, ça va être extrêmement sévère. Et le pire, c'est que Dieu nous dit dans les Écritures que malgré tous les avertissements, malgré tous les jugements extrêmement sévères qu'il va envoyer, les hommes vont continuer à blasphémer et ils vont continuer à vouloir demeurer dans leur péché. on voit la profondeur de la corruption humaine là-dedans quand on se met à... L'Apocalypse, j'aime beaucoup l'Apocalypse. Plus je l'étudie, plus je l'aime. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse, il y en a plusieurs qui voient ça comme un livre de peur. Ça n'a rien à voir avec la peur, l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Ça révèle une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le Christ. Ça nous le révèle dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, dans toute sa force, sa toute puissance. Il nous montre qu'il est au contrôle. C'est pour ça que ce livre-là, ce n'est pas un livre pour nous décourager et nous faire peur. C'est un livre pour nous encourager, pour nous montrer jusqu'à quel point le Seigneur est au contrôle de toutes choses qui se passent, y compris ce qu'on vit présentement. Pas juste au niveau de l'Église locale, du monde entier. Alors, on avait parlé qu'il y avait quatre trompettes. La première trompette, c'était dans le verset 7, c'était les jugements sur la terre. La deuxième trompette, c'était les jugements sur la mer, versets 8 et verset 9. Ensuite, la troisième trompette, c'était les jugements sur les fleuves et sur les lacs, versets 10 et verset 11. Quatrième trompette, les jugements sur le système solaire et les étoiles. Voyez-vous, tout ce qui est créé en dehors de l'homme, on parle de la terre, on parle de la mer, on parle des fleuves et des lacs, on parle aussi du système solaire et des étoiles. Il va y avoir des jugements sur toutes ces choses-là qui sont en dehors de l'homme. Des jugements sévères. Et à partir de la cinquième, on va voir cinquième, sixième et septième trompette, on va avoir quelque chose de différent. Là, les jugements ne s'adresseront pas sur la création, ils vont être sur la créature, sur l'homme. Il faut voir la progression de ça. Dieu commence par la nature. Et l'univers, pour ensuite envoyer du jugement aux hommes. On va le voir dans les prochaines... Donc, c'est important de voir que les sceaux, les trompettes et les coupes de la colère, c'est pas quelque chose qui arrive juste à la fin. Dans tous les siècles, c'est ça que j'ai voulu vous expliquer la semaine dernière, qu'il existait un lien entre les sceaux, les trompettes et les coupes. Les sceaux, c'est la description de tous les événements qui vont se dérouler sur la terre et dans l'univers depuis la sortie de Christ pour établir son royaume jusqu'à sa deuxième venue. On peut imaginer, c'est vaste, c'est énorme. C'est ça les décrets, les sceaux que Dieu a donnés à Jésus-Christ, que Jésus-Christ ouvre un par un. Autrement dit, l'ouverture d'un sceau, c'est exécution. C'est pour ça que mon sermon aujourd'hui s'appelle « Les quatre premières trompettes, exécution des jugements divins ». Il commence à s'exécuter et c'est loin d'être fini, croyez-moi. Et les sept trompettes, c'est tout simplement, on reprend encore les sceaux, mais là on va plus dans les détails. Autrement dit, c'est comme, on va dans les détails. C'est une vision qui est plus détaillée des sept sceaux. Et ensuite, les sept coupes de la colère, elles, ça aussi, ça, c'est à tous les siècles. Les sceaux, les trompettes, les jugements, c'est à tous les siècles que ça s'est produit. Mais toujours dans cet ordre-là. Le sceau, la trompette, le jugement, la colère de Dieu. Alors, les sept coupes, c'est une vision plus intensifiée. Alors, c'est important, si on comprend ça, là, qu'on lit l'Apocalypse, déjà on vient de s'enlever une grande difficulté. Les sept sceaux sont brisés, c'est accompagné des sept trompettes, c'est accompagné des coupes de la colère, et c'est dans tous les siècles. Qu'on avait vu, on ne reprendra pas ça, mais le jugement sur la terre, on va juste reprendre un petit peu le jugement sur la terre avec quelques observations. Apocalypse chapitre 8, verset 7 dans la version Sterval. Et le premier ange sonna, et il y eut une grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre, et la troisième partie des arbres fut brûlée, ou le tiers, dépendamment des versions, et toute l'herbe verte fut brûlée. Dans la version Louis II, 1910, ça dit « Le premier sonna de la trompette et eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Oh, ce qu'on est important, là. C'est un jugement important. Alors, on rappelle brièvement le rôle des trompettes pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'était un signe d'autorité. C'était un signe aussi de convocation du peuple. C'était aussi utilisé pour le couronnement des rois. Quand on voulait couronner un roi comme Salomon dans l'Ancien Testament, lors des couronnements, on sonnait de la trompette, on convoquait le peuple pour que le peuple puisse assister au couronnement. Et c'était aussi une annonce de la destruction des ennemis. Si on regarde le rôle des trompettes dans l'Ancien Testament dans l'ensemble, et qu'on regarde le rôle des trompettes dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Alors les choses là, l'autorité, quand on sonne de la trompette, c'est un signe d'autorité. Quand on convoque le peuple pour le couronnement, dans le temps, on parlait du couronnement des rois terrestres. Là, je pense qu'on est en train de parler du couronnement du roi céleste. Et aussi l'annonce de la destruction des ennemis. Dieu est en train de travailler à détruire ses ennemis. Ça va se faire graduellement, mais ça va arrêter un jour, parce qu'un jour, ils vont tout être détruits. Et ça va être la fin du monde. Alors, le premier jugement, c'est des calamités et des désastres dans la nature. Le texte parle de grêle, de sécheresse et d'autres cataclysmes. Alors, on pense qu'on a revisé un petit peu, et on a fait la semaine dernière aussi un parallèle avec le jugement que le Seigneur a envoyé dans l'Exode, quand il y a eu l'Exode, quand le peuple d'Israël était en Égypte et que le Seigneur voulait les sortir de là, il y avait des plaies que le Seigneur a envoyées, puis il y en avait une des plaies qui était de la grêle. Ça revient à l'Apocalypse. C'est drôle, hein? Alors, il y en a des jugements, et on avait rappelé la vérité suivante, qu'on a besoin de se rentrer très solidement dans le coco aujourd'hui. Dieu répond aux prières des saints. Les saints, ça, c'est nous. Et quand on lui envoie des requêtes, ou qu'on voit du mal se produire sur la terre et qu'on demande à Dieu d'intervenir, il intervient. C'est pas à cause qu'on ne fait pas nécessairement la cause. Tu sais, cause-effet. Il y a une cause, on a prié, il y a un effet, Dieu répond. Même si on ne la voit pas, la relation cause-effet, il y en a une, parce que la Bible nous dit que des prières sont montées puis que c'était agréable à ses narines. Donc, il y a un jugement sur les ressources. Les quatre premières trompettes, c'est des jugements sur les ressources premières de subsistance humaine. Autrement dit, on a un cultivateur devant moi, là. Penses-tu qu'il peut se passer d'herbe verte, lui, là? Non. Mais si notre tiers qui est brûlé, pensez-vous que ça va créer des problèmes sur la terre? Ça va créer des problèmes énormes. Et autre chose qu'on a besoin de rappeler aussi, c'est que quand on regarde le chapitre 6, quand le Seigneur a dit, quand les saints ont dit, « Jusqu'à quand, Seigneur, ne tarderas-tu pas à tirer vengeance? » Il avait parlé, il avait donné que c'était le corps. Il était pour intervenir sur le corps de la création. Un corps, c'est combien? 25%. Là, on est rendu à un tiers. C'est combien? 33 et un tiers. Donc, on est en train de voir une progression dans la sévérité des jugements. La première fois que je tiens compte de ça, je l'ai déjà lu l'Apocalypse avant aujourd'hui, maintes et maintes et maintes fois. Des fois, il faut que tu lises quelqu'un qui l'a étudié plus en profondeur, puis dit, regarde, là, c'était 25, là, c'est rendu à 33. C'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant comme idée. Et autre dernière idée qu'on a faite pour le premier point, pour la première trompette, c'était la question du jugement divin, mais qui véhicule un message divin miséricordieux. Même dans ces jugements, faire brûler le tiers, là, puis la grêle pour tout détruire, le tiers, il précise le chiffre, c'est sévère, mais c'est quand même miséricordieux parce qu'il y a deux tiers qui n'ont pas été touchés. Alors même dans ces jugements, Dieu est miséricordieux. On était rendu à la deuxième trompette, jugement sur la mer, versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme, ça ne dit pas une grande montagne, ça dit quelque chose comme, donc ça ressemble, on parle d'une comparaison. Et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Donc, il va y avoir des jugements divins sur la mer. Alors, on peut se rappeler, en faisant un parallèle avec les jugements que le Seigneur a envoyés quand il a sorti son peuple d'Égypte, concernant les eaux du Nil, son recul dans l'Exode. Exode, chapitre 7, versets 20 à 25. « Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte, mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna, alla dans sa maison, il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. » Donc, le deuxième jugement comprend les mêmes caractéristiques que le premier. Il vient en réponse au saint. L'influence le mode de vie et le confort des hommes. Et le jugement est aussi restreint et provisoire, parce qu'on sait un petit peu plus loin dans l'Apocalypse où on va encore parler de l'herbe verte, il va en avoir encore. Donc, s'il y en a encore, c'est que le jugement qu'il envoie est restreint et pas pour tout le temps. Alors, influence le mode de vie et le confort. La journée que le Seigneur va envoyer ce jugement-là, que le tiers des herbes, tout les arbres, on a parlé des arbres, on a parlé de l'herbe verte. La journée que le Seigneur va l'envoyer, on va le savoir. Et ça va nous affecter. Donc, le jugement est restreint et provisoire. Et il envoie un message à l'Église de se réveiller. Combien d'auteurs que j'ai lus qui disent que l'Église actuelle est dans un état de sommeil. On dort sur la switch, comme on dit en québécois. Et le Seigneur est en train de nous envoyer des affaires pour nous réveiller. Moi, je le crois profondément. Deuxième chose, il envoie ces choses-là pour inviter le peuple de la terre à se repentir. Quand on regarde la deuxième trompette des jugements sur la mer, je pense que ça représente une grande turbulence dans l'eau des océans, qui va avoir les conséquences suivantes et qu'on entend parler presque à tous les jours dans les nouvelles. Des tempêtes, des typhons, des raz de marée, des tsunamis, des tremblements de terre, des fois ils sont souterrains, mais ça fait des ouragans, et possiblement des éruptions volcaniques. Alors, ce sont des phénomènes qui coûtent des vies humaines, on a du sang, et qui fait mourir des créatures de la mer. Et ça parle même de navires. Si tu as une grosse tempête sur l'océan, c'est une plaie, là, plein de bateaux qui ont été perdus au cours des siècles. Alors, le Seigneur, ça sert de toutes ces choses-là. Et il y a des grands hommes de Dieu qui sont nous, Seigneur, lors d'une grande tempête sur la mer. Qui? Mouton. Celui qui... Les esclaves, celui qui trafiquait des esclaves. Il y a eu une immense tempête. Il est endurci comme pêcheur, là. Et c'est lors d'une immense tempête sur la mer où il était sûr qu'il était pour y laisser sa vie, qu'il s'est rappelé ce que sa mère lui disait quand il était assis sur les genoux de sa mère dans sa jeunesse, dans sa tendre enfance. Et là, il s'est mis à genoux puis il a prié le Seigneur. Puis le Seigneur l'a sauvé et il est devenu un grand homme de Dieu après. Il est devenu pasteur et il a lutté énormément contre le commerce des esclaves en Angleterre. Le Seigneur s'est servi d'une tempête pour sauver un homme. Il s'est sauvé. Alors, il fait encore la même chose aujourd'hui. Il y a des navires. Autrement dit, le Seigneur a commencé à nous dire qu'il va y avoir des jugements sur la terre. l'herbe, les arbres, l'herbe verte. Il va y avoir des jugements sur l'océan, sur les lacs. Et la troisième trompette, on est rendu là, on va regarder les jugements sur les fleuves et sur les lacs. Alors, Apocalypse 8, versets 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Est-ce qu'on voit un petit peu ce qui se passe de nos jours au point de vue des eaux? On est en train de tout empoisonner la planète avec la pollution, etc. Alors, quelque part, c'est déjà des jugements. Alors, le troisième jugement concerne les ressources en eau douce. On peut-tu se passer d'eau douce? On ne pensera pas, hein? Alors, on a souvent parlé dans les médias de l'eau comme étant l'or du 21e siècle. Puis, si vous surveillez un petit peu la situation politique actuelle, les grandes corporations sont en train de s'accaparer de l'eau dans le bout de la vente au monde. Ça s'en vient, ça aussi. Même l'eau va être aussi rare. On ne l'appelle pas l'or du 21e siècle pour rien, parce qu'elle va prendre de plus en plus de valeur. Et nous, ici au Québec et au Canada, on en a en abondance. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des compagnies qui vont vouloir s'approprier ça de plus en plus dans le but de nous la vendre. Alors, l'eau potable est une ressource, bien entendu, essentielle. Les eaux empoisonnées par la pollution ou par un autre moyen sera définitivement une épreuve terrible pour les hommes. Elles pourront causer des épidémies et de très nombreuses mortalités. Le prophète Jérémie mentionne ce type de jugement divin dans Lamentations, chapitre 3, versets 19 et 20. Il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, voyez-vous l'absinthe? » C'est dans Jérémie, puis on en parle encore de l'Apocalypse. « Quand mon âme s'en souvient, elle était battue au-dedans de moi. » Si on voit dans Jérémie, chapitre 9, versets 13 à 15, ça dit « L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals comme leurs pères le leur ont appris. » C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Les jugements divins. Matthieu 24, on connaît tout le chef. Matthieu 24, le jour du grand jugement. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Je vais juste vous donner une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, nouveau dictionnaire biblique révisé et augmenté des éditions Emmaüs sous le mot absinthe. Des fois, il faut aller fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut dire par absinthe? Ça peut tout vouloir dire si on est familier et ça peut vouloir rien dire si on n'est pas familier. Alors, voici le mot « absinthe », ça dit dans le dictionnaire biblique. « Dans un sens imagé », ça veut dire un sens symbolique, « dans un sens imagé, l'absinthe désigne l'amertume d'une grande souffrance, d'un grave châtiment ou de l'intoxication produite par le péché. » Quand il parle d'absinthe, là, autrement dit, ça va faire mal, puis c'est un châtiment, et aussi... C'est causé par, bien entendu, le péché des hommes. On arrive au quatrième trompette, les jugements sur le système solaire. Ça va être fort probablement un des jugements qui va être le plus épeurant. On le lit dans le verset 12. Ensuite, le quatrième ange sonna de la trompette et la troisième partie du soleil fut frappée, ainsi que la troisième partie de la lune et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie et que la troisième partie du jour perdit sa lumière et la nuit de même. Autrement dit, ça va être très difficile à vivre. Si on arriverait en plein jour, que le soleil, on perdrait la moitié de sa lumière, on serait terrorisé. Et le Seigneur dit qu'il va l'envoyer un jour. Alors, le quatrième jugement nous rappelle un peu aussi le neuvième fléau qui a amené l'obscurité sur l'Égypte pendant 3 jours. On lit dans Exode chapitre 10, versets 21-23. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, tel qu'on puisse les toucher. Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure. » Alors, il faut faire le lien entre les fléaux d'Égypte, faire sortir le peuple d'Égypte avec l'Apocalypse. N'importe quel auteur que vous allez regarder dans l'Apocalypse, ils vont toujours faire ces parallèles. Le Nouveau Testament nous parle aussi de perturbations que le Seigneur va permettre dans le système solaire. On lit dans Luc 21, versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Moi, j'ai hâte qu'elle arrive. Vraiment, vraiment hâte. L'obscurcissement du tiers du soleil, du tiers de la lune, du tiers des étoiles, exprime l'effet désastreux du désordre et des perturbations dans les luminaires. Dans les Saintes Écritures, l'obscurité représente très souvent le jugement de Dieu. Prenons l'exemple dans Joël. « Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. » Là, on parle de l'Ancien Testament, là, on est dans le Nouveau, on est dans l'Apocalypse. Il nous montre qu'il y a des signes, il y a des choses, il y a des parallèles qu'on peut faire. Alors, c'est la main même de Dieu qui va produire ces phénomènes et non pas la main des hommes. C'est sûr que quand ça va arriver, vous allez voir les hommes qui vont chercher à trouver des explications. « Ah, ben là, il y a ci, puis c'est tel phénomène. » Ils vont exclure Dieu de l'équation. Mais Dieu est dans l'équation, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il est dans l'équation. C'est lui qui les envoie, ces phénomènes-là. Alors, il nous faut aussi considérer que Dieu est la source de toute lumière. En se détournant de Dieu, l'humanité incrédule choisit l'obscurité. L'obscurité de l'Égypte n'est qu'une figure de l'obscurité totale qui frappera la terre au jour du grand jugement. Les pécheurs non repentants recevront toute l'horreur de l'obscurité qu'ils ont choisi de suivre. Ils seront pour toujours enfermés dans les ténèbres du dehors. Tu ne la veux pas, la lumière? Tu ne l'auras pas. Matthieu 25, verset 30. « Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Par l'enfer. 3 applications Première application, considérons la sévérité de Dieu qui peut couper les moyens de subsistance à l'homme et le priver des moyens de son confort. Les phénomènes que l'homme appelle naturels sont des manifestations de la main de Dieu. Si vous lisez les anciens livres où les hommes, par exemple les puritains ou les protestants de longue date, aujourd'hui de moins en moins, mais dans les livres de cette époque-là, les gens voyaient les phénomènes naturels que les gens sur la terre ou les savants de ce monde appellent des phénomènes naturels, eux voyaient là-dedans la main de Dieu. C'est Dieu qui agit. Dans les assurances, souvent, on dit « it's an act of God ». Tu sais, autrement dit, quand il y a une grosse tempête, que ça met le feu quelque part, les hommes vont dire « ben là, le feu poignant quelque part, c'est les hommes qui ont été mal... » Non. Dieu dit dans les Écritures que tout ce qui se produit sur la terre a été décrété par lui. C'est lui qui permet ces choses-là. À quelque part, il faut s'habituer à voir la main de Dieu dans les phénomènes qu'on voit autour de nous, de quelque nature qu'ils soient. Deuxième application, observons la miséricorde de Dieu, même dans l'utilisation des moyens de jugement. Dieu les accompagne souvent d'avertissements, des délais, tu vois, il lui donne du temps pour se repentir, des appels à la repentance. Combien de fois on pourra aller chercher des multitudes d'exemples dans les Écritures où Dieu avertit par des fois c'était par les prophètes, il avertit le peuple, il le laissait un certain temps, puis un moment donné, le jugement tombait. Quand il avertit son peuple, Israël, dans le temps, puis il a dit, vous allez aller sur des 10 ans. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont désobéi? Il avait beau envoyer des prophètes, ils s'endurcissaient, un moment donné, ils envoyaient à Babylone. Ça, c'est des 10 ans. C'est marqué dans les Écritures, ça. Puis à un moment donné, il y en a un qui a allumé. Ah, on vient d'arriver à la fin du temps des 10 ans, normalement, on devrait s'en sortir. C'est la fin du jugement de Dieu. Alors, des appels à la repentance, et ça, aussi, on voit la miséricorde dans le fait qu'il applique ses jugements uniquement à une partie de la terre, le tiers. On voit la miséricorde, il aurait pu dire tout le monde, toute la terre, quoi. Et troisième application, réfléchissons sur la puissance et le rôle de nos prières sur le déroulement des choses terrestres. Ne sous-estimons pas, on le fait, je l'ai fait, puis je suis sûr que vous l'avez fait aussi, on sous-estime la puissance de la prière. Quand on est des chrétiens, Dieu nous écoute, il entend ce qu'on dit, jour et nuit, vous pouvez prier n'importe quel temps, il vous entend n'importe où, peu importe où vous êtes. Il vous écoute, puis il vous entend. Et ce qu'on prie pour les situations internationales, pour le mal qui se produit sur la terre, ne pensons pas qu'on a affaire à un Dieu sourd. Il entend, et il agit, et il intervient, et il envoie les jugements. Plus, si on serait vraiment pleinement conscient de ça, d'après vous autres, on prierait-tu plus? Je pense que oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est un certain degré d'inconscience, un certain degré d'incrédulité. Parce que si on serait vraiment plein de foi et qu'on serait absolument sûr que chaque fois qu'on fait monter une prière à Dieu, Dieu répond, même sur les choses qui se passent sur la terre, les phénomènes du mal qu'on voit autour de nous autres, c'est tellement profond les phénomènes du mal qu'on voit de nos jours, moi personnellement, ça me donne des hauts le cœur. Je pourrais vous parler aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer là-dedans matin, là. Mais quand tu dis que tu regardes le mal qui se passe sur la terre, tu en as mal au cœur, quasiment pour vomir. À quelque part, c'est parce que le mal qui se produit sur la terre, il n'est pas petit. Mais élevons nos cœurs à Dieu dans ce temps-là. Dieu, intervient, je t'en prie. Faites quoi, Seigneur? Ça n'a plus de bon sens. Pensez-vous que le Seigneur ne répondrait pas à ça? Oui, il va répondre à ça. Alors, prenons de plus en plus conscience de ça. C'est important. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ, notre grand Seigneur et Sauveur, soit adoré éternellement. Amen.